Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Aujourd'hui, je reçois Serge Saint-Blanca. Bonjour Serge.
Adiciat.
Qui revient avec, il était déjà venu en 2005 pour présenter son premier roman « L'œil de la montagne » édité aux éditions La Cour. Et là, il revient avec un recueil de 4 nouvelles qui s'appelle « Ariège en filigrane, intimité » édition La Cour également. Il va nous en parler dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Je commence avec à la librairie Ombre Blanche qui se situe 50 rue Gambetta à Toulouse. Pour ce samedi 8 novembre, à 11h, une table ronde et un débat sur le thème « La petite édition peut-elle résister à l'envahissement de l'univers créatif par des acteurs industriels, proposer des façons de faire alternatives et mettre en avant ses valeurs propres ». Alors c'est avec la présence d'acteurs locaux de l'édition bien sûr et de la création graphique et narrative. Donc si ce thème de la table ronde, de cette table ronde vous intéresse, samedi 8 novembre à 11h, à la librairie Ombre Blanche. Et puis également samedi 8 novembre, mais alors là il va falloir choisir si vous préférez la poésie ou alors débattre sur le thème de la petite édition. C'est de 10h30 à 12h30 à la médiathèque José Cabanis, au petit auditorium au 3e étage. Et il s'agit de lire la poésie, un atelier proposé par Blandine Poney. Alors c'est découvrir la poésie contemporaine à travers un choix de textes et sur des propositions simples, de travailler ensemble le dire à haute voix, comment adresser le texte, trouver sa voix, prendre la parole, etc. Donc c'est sur inscription au 05 62 27 45 24 et le prochain atelier aura lieu le 13 décembre, c'est une fois par mois mais je vous en reparlerai. Donc voilà, la poésie, un atelier pour la poésie de 10h30 à 12h30, samedi 8 novembre à la médiathèque. Ensuite, mercredi 12 novembre, des contes estoniens seront lus à la médiathèque José Cabanis, cette fois-ci au Piccolo Teatro, c'est-à-dire le secteur jeunesse de la médiathèque, au rez-de-jardin. Alors, il y a deux horaires, à 11h pour les petits de 3 à 5 ans et à 16h pour les plus grands à partir de 5 ans, en sachant que pour la séance de 16h, après la lecture, il y aura un goûter qui sera offert par l'ambassade d'Estonie. Alors ce sont des histoires qui alternent avec des chants traditionnels ou improvisés et accompagnés parfois d'instruments ou de percussions. Donc c'est mercredi 12 novembre, des contes estoniens qui sont lus par la chanteuse et comédienne Lembe Locke, qui est estonienne bien sûr. Ensuite, une lecture en français et en anglais par Anne Cameron sur Dylan, une lecture des poèmes et de la prose de Dylan Thomas. Alors c'est jeudi 13 novembre à 18h au Confort des étranges, rue Mirepoix à Toulouse. Alors c'est un poète dramaturge et romancier gallois qui est né en 1914 et qui est mort en 1955. Donc si cela vous intéresse, une lecture bilingue. Jeudi 13 novembre à 18h, rue Mirepoix au Confort des étranges. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre information? Jeudi 13 novembre également, mais cette fois-ci à 18h, à la médiathèque José Cabanis, au grand auditorium rez-de-jardin. L'entrée est libre là aussi, bien sûr, dans tout ce que je vous dis, l'entrée est libre. Une rencontre sur le thème « L'écrivain en son temps » qui est organisée par le Centre Régional des Lettres de Midi-Pyrénées. Alors c'est avec je m'emmêle avec les prénoms aujourd'hui. Alors c'est avec Franck Magloire, qui est écrivain et qui a été d'ailleurs également enseignant et qui a publié 2 ouvrages aux éditions de l'Aube, que certaines connaissent, « Ouvrière » et « En contrebas ». Et cette conférence donc sur l'écrivain en son temps est également animée par Gérard Mordillat, qui lui est documentaliste, cinéaste et écrivain. Il a publié cette année chez Calman Lévy « Notre part des ténèbres ». Et puis, eh bien, voilà, nous allons passer à notre invité.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupitou. Merci à Alexandre qui est à la technique ce matin. Alors, Serge Saint-Blanca, on s'était vu ici à Page en 2005 pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, L'œil de la montagne, un roman qui se passait essentiellement en Ariège. C'est ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui.
Et qui évoquait, il y avait le handicap visuel qui était évoqué dans ce livre avec un personnage qui existe, que nous connaissons.
Oui,
et après,
oui,
il y avait toute une fiction autour.
Il y avait un aspect fictionnel plus conséquent, effectivement, mais avec un certain nombre de personnages qui permettaient de mettre en place toute une trame dans le cadre de... Une petite enquête, si l'on peut dire.
Oui, tout à fait. Et là, vous revenez avec un recueil de 4 nouvelles, donc aux éditions La Cour, qui viennent d'être publiées en mai 2008. Alors, on va rappeler un petit peu, donc vous êtes psychologue, Serge.
Oui, oui.
Vous exercez dans un établissement spécialisé avec des jeunes qui sont déficients moteurs ou sensoriels, mais pas mentales. Hein, voilà, il n'y a pas de déficience mentale.
Tout à fait.
Voilà, donc ils font des études, même des
bien
études
avancées
supérieures,
pour certains,
ils avancent,
Oui.
Donc, c'est simplement adapté à leur handicap moteur ou sensoriel.
Voilà, c'est un contexte aidant pour leur permettre de mener à bien tous leurs projets scolaires et projets de vie.
Et alors, le côté donc psychologue, entre guillemets, est-ce qu'on le retrouve un peu dans ce recueil de 4 nouvelles, je trouve ? Enfin, j'ai beaucoup aimé, hein, ces 4 nouvelles fort différentes, mais qui ont quand même le point commun déjà au niveau du style, c'est que c'est superbement écrit. C'est j'ai trouvé que le style était riche et puis poétique aussi parfois.
Mais je vous remercie.
Mais c'est sincère, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc les 4, elles ont ce point commun. Et puis bon, elles ont quand même, bon, même si elles abordent des fois des thèmes un petit peu graves ou graves, elles se soldent quand même par quelque chose. Bon, sauf une qui n'apporte pas, enfin qui n'aborde pas forcément, hein, comme Angela, la nouvelle qui s'appelle Angela n'aborde pas forcément un thème grave. Hein, c'est plutôt au contraire léger, la superficialité. D'une personne dans un monde superficiel également.
Tout à fait, oui.
Mais les autres, sinon, se soldent quand même par quelque chose de positif. Il y a de l'espoir, c'est pas tout négatif.
Ce sont des trajectoires qui se veulent, je le pense, ascendantes.
Oui. Tout à fait.
Donc, voilà.
Donc 4 destins, 4 vies et 4...
Même si les thématiques, effectivement, sont parfois relativement, a priori, lourdes.
Oui.
Oui, dans le sens où elles sont affectivement chargées. Voilà.
Donc vous avez dédié d'ailleurs ce recueil de nouvelles à votre fille Loredane et à vos parents.
Oui, tout à fait.
Et également au souffle de l'Ariège.
Oui.
Voilà. L'Ariège, c'est présent dans vos écrits, enfin dans votre...
L'Ariège, c'est une empreinte, il y a une marque.
Vous êtes ariégeois.
J'ai des origines ariégeoises, parmi d'autres origines, entre autres Gascogne.
Auquel vous tenez.
Voilà, oui.
Voilà, vous aimez l'Ariège.
Un ancrage important, oui, tout à fait, tout à fait.
Donc ça se retrouve bien sûr donc dans votre précédent roman L'œil de la montagne, mais également dans celui-ci.
Disons qu'il y a un petit peu la notion de sillon. L'Ariège apparaît un petit peu justement en filigrane dans chaque histoire qui est contée. Et c'est juste quelque chose qui est semé.
Une aspiration, une... Non.
Il y a un fond, si vous voulez, qui, à certains moments, fait référence à l'Ariège. Mais l'Ariège n'est certes pas central dans les nouvelles qui sont contées, mais on trouve quelques éléments qui sont en lien avec. Oui.
Tout à fait, parce que justement, la dernière qui s'appelle Jorge, qui est assez longue d'ailleurs, une nouvelle assez longue. Alors, elles sont de tailles différentes.
Oui,
hein. Angela est très courte, elle fait 2 pages. Anthony, c'est un petit peu plus long, mais guère plus. Hein, voilà.
Oui.
Et la première qui s'appelle Ascension en Do majeur, et puis la dernière qui s'appelle Jorge, celles-là sont assez longues.
Oui.
Et par exemple, si on prend Jorge, en parlant de la dernière, ça se passe au début à Londres et après à Lisbonne, puisque les personnages sont portugais.
Oui.
Donc vous connaissez ces deux villes-là, parce que quand on connaît, enfin moi je suis allée à Londres et à Lisbonne et j'ai reconnu le quartier de l'Alfama pour Lisbonne, la tour de Belém. Voilà, c'est des endroits que vous avez visités et que vous avez aimés.
qui m'ont d'une certaine manière effectivement imprégné, que j'ai visité. Et quand les choses se sont produites, je ne savais pas que ces lieux pourraient servir de support aux histoires qui sont contées dans ce recueil de nouvelles. Mais tout à fait, oui.
Et là, vous avez voulu rendre un petit peu un hommage à ces villes ou à ces...
Disons que c'était des lieux qui étaient caractéristiques et qui permettaient d'une certaine façon de mettre en place les histoires qui sont racontées, qui sont, comme vous le disiez, extrêmement différentes les unes des autres et dans leur espace-temps et dans... effectivement leur longueur qui induisent des rythmes différents, voilà, certaines étant plus longues et plus courtes. Ça, c'est un peu, on va dire, quelque chose de l'ordre d'une démarche d'écriture. Donc les lieux effectivement permettent aussi de donner un petit peu de contenant aux histoires qui sont racontées dans ce recueil de nouvelles, mais ce sont des lieux qui aussi ont pu m'imprégner.
Tout à fait. Alors, on va prendre la première, par exemple, leur ascension en Do majeur. Donc, cette nouvelle, donc, elle est par la, voilà, comme vous le disiez, elle est un peu longue. Elle est parmi les deux qui sont les plus longues de ce recueil. Et, alors là, c'est rigolo parce que le personnage central n'est pas nommé.
Oui.
Volontairement, hein, bien sûr, je précise. Hein, donc, c'est toujours elle.
Oui.
Alors, c'est l'histoire d'une femme, voilà, qui s'appelle elle. Enfin, c'est elle.
Oui.
Et tout au long de la nouvelle, on n'en saura pas plus, en fait, ni sur son prénom, ni sur sa vie, ni sur ce qui a fait que... voilà, parce que c'est l'histoire d'une femme, on imagine, enfin moi je l'ai perçue comme ça, c'est une femme qui se trouve dans une situation de souffrance intense. Alors on ne sait pas... pour quelle raison, mais bon, moi, voilà, après, on peut tout imaginer, le lecteur a le loisir d'imaginer ce qu'il veut, et voilà, elle est dans un état de souffrance intense pour arriver à vivre, pour continuer à vivre, et bon, moi, j'ai pensé un peu à une sorte de dépression, enfin, qui est le mal du siècle, paraît-il, voilà, et à la fin, bon, voilà, il y a de l'espoir, puisque bon, la musique va lui apporter... un salut, va lui apporter une bouée de sauvetage.
Une note d'espoir.
Une note, voilà,
oui,
tout à fait, une note d'espoir.
Oui, oui.
Donc, ça, bien sûr, le lieu non plus n'est pas cité.
Oui,
mais on peut imaginer que ça se passe dans un lieu où il y a un canal, parce que bon, il y a une péniche.
Voilà.
Donc bon, forcément, quand on habite à Toulouse, on se dit que c'est peut-être notre ville rose.
On peut certes associer, oui, c'est une éventualité, tout à fait.
Et alors, donc, cette histoire, vous avez voulu, dans cette nouvelle, vous avez voulu exprimer... Ce mal du siècle ou quelque chose que finalement tout le monde peut rencontrer, soit par soi-même, soit par quelqu'un qui a cette souffrance en elle ou en lui. Un jour dans sa vie, on peut rencontrer cette...
La souffrance psychique est quelque chose à différents niveaux, mais qui est partagé par tout un chacun. Cette souffrance, effectivement, recouvre des objets qui sont bien différents d'une personne à l'autre. Ça peut être la dépression, ça peut être aussi, effectivement, d'autres problématiques, je pense, liées à l'existence. Mais donc, ce que j'avais souhaité, alors je ne sais pas si c'est réalisé dans l'écrit, mais c'est que chacun puisse, effectivement, s'il a quelque chose en soi, le projeter sur le personnage et sur le contexte de manière générale. Donc, cette personne s'appelle elle parce que c'était... un homme ou c'était une femme, ça je n'avais pas le choix. Donc j'ai pensé que ça serait une femme, elle, entre guillemets quand il s'agit de la personne et quand elle est nommée indirectement sans les guillemets. Et donc c'est une personne qui a une charge à porter et qui d'une certaine manière est au fond d'un gouffre.
Ah oui, vraiment au fond du gouffre.
Voilà.
Hein, avec plus l'envie de vivre, plus l'envie d'exister, hein,
voilà,
finalement.
Voilà.
C'est ça, hein, c'est vraiment fort. Hein, je crois que ça parle, même si on ne l'a pas vécu personnellement, je veux dire, je pense que ça parle à une partie de nous-mêmes, quoi, je pense.
Il y a donc une ascension qui fait que cette personne, bon, et dans une trajectoire ascendante, et c'est là que effectivement réside la note d'espoir.
Voilà, elle rencontre une péniche, elle rencontre une péniche où elle entend des notes de musique, et c'est un peu un déclic.
Il y a un élément.
Il y a quelque chose qui se passe en elle et elle a envie de nouveau de.
Un élément révélateur qui, d'une certaine façon, oui, la raccroche à l'existence et au sens de la vie.
Oui. Moi, j'ai bien aimé. Bon, de toute façon, j'ai bien tout aimé, mais il y a deux phrases qui m'ont marqué dans cette nouvelle-là plus particulièrement. C'est ce lieu d'ancrage. Donc c'est la péniche, hein, on le sait quand on lit le livre. Donc ce lieu d'ancrage n'était pas au fond. Je vais vous laisser lire parce que
celui d'ancrage, la péniche, oui, n'était au fond que provisoire,
Comme l'illusion de compter à jamais.
Ouais, comme l'illusion de compter à jamais. Ouais, voilà.
Ça, j'ai beaucoup aimé comme phrase. C'est vrai que l'ancrage, on croit avoir un ancrage, parce qu'en fait, elle regarde cette péniche, alors elle y est, puis elle n'a pas de suite l'impulsion d'y aller voir un peu ce qui s'y passe, et quand elle revient quelques jours après, la péniche est partie justement pour une petite mini-croisière, et donc elle se rend compte qu'elle n'est plus là, la péniche.
Et qu'il y a un manque, et c'est ce manque qui lui permet de se raccrocher à l'existence.
Tout à fait.
Il y a d'autres manques, mais c'est ce manque-là qui lui permet justement d'avancer.
D'avoir envie d'attendre de nouveau cette péniche, et que quand elle sera là, elle va faire la démarche d'y aller, et après de s'inscrire à cette chorale, et etc.
C'est là qu'il y a une pulsion de vie, en fait, qu'elle repère, alors qu'elle pensait qu'elle n'y était plus. Oui.
Et donc ça c'est une très belle, moi ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette première nouvelle, donc ascension en do majeur, hein, en plus ça se rapporte à la musique, il y a la notion d'ascension et voilà. Ensuite la seconde c'est Anthony, alors celle-là elle m'a beaucoup marquée aussi. Anthony ou Tony, hein, voilà, parce que lui aime bien qu'on l'appelle Tony, c'est l'histoire d'un garçon. Mmh. Et on se rend compte qu'il est différent des autres. Voilà.
Oui.
Moi j'ai bien aimé parce que il y a beaucoup d'humanité dans cette nouvelle, enfin comme dans tous ces enfants d'ailleurs qui sont différents des autres, il y a beaucoup d'humanité et ils sont attachants.
Certaines le sont, oui.
Oui, certaines. En tout cas, celui-là l'est.
Voilà. Quand j'ai écrit la nouvelle, je le considérais comme étant attachant, effectivement, oui.
Voilà, moi aussi, j'ai bien aimé. Donc c'est pareil, là aussi, ça peut être un enfant que tout le monde a rencontré, pas forcément qu'on a soi-même, mais qu'on a rencontré...
Que l'on peut côtoyer.
Que l'on peut côtoyer,
un
enfant différent, donc qui est dans un établissement spécialisé, hein, qui est... de jour, avec des parents, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, des parents qui sont attachés à leur enfant, l'aiment, qui l'aident. Et donc cet enfant, en fait, c'est une petite nouvelle, hein, c'est assez court
c'est
comme
très
nouvelle.
Court, 3 ou 4
ça aborde
pages,
quand
je
même
pense,
le sujet de la différence.
Oui.
De certains types de différences.
Différence très marquée.
Voilà, c'est la différence mentale, en fait. Mentale, là, c'est pas ni mentale, moteur, non, ni sensoriel, c'est mental.
On est dans une autre dimension.
Une autre dimension.
Tout à fait, oui.
Et je crois qu'on lira un petit passage tout à l'heure de celle-ci, si vous voulez bien, Serge.
Je m'y risquerai.
je l'aime bien, cette nouvelle. Elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée.
Bon.
Et puis alors ensuite, on a Angela, la troisième nouvelle du recueil. Alors là, qui est la plus courte du recueil. Elle fait 2 pages, cette nouvelle. Donc c'est Angela, c'est une jeune femme très superficielle, dans un monde superficiel, comme vous l'avez dit. Et puis elle s'apprête à choisir une robe pour son dîner du soir, parce que son fiancé va la demander en mariage.
Il va se passer un événement, effectivement.
Il va se passer
important.
Un événement.
Elle pense qu'il va se passer un événement important.
Voilà, c'est ce qu'elle a dans la tête. Elle pense que ça va être ça.
Et a priori, ça doit être ça.
Ben oui, parce qu'en fait, on ne sait pas. Hein. Au bout des deux pages, on ne sait pas si vraiment Étienne va demander Angela en mariage.
Certes, mais c'est surtout l'insouciance et puis le paraître, comme vous disiez, la superficialité et le fait que c'est la notion d'artifice. Donc, la nouvelle est très rapide parce qu'en fait, l'artifice ne dure pas.
C'est éphémère.
Exactement, la notion d'éphémère.
La notion d'éphémère et de clinquant aussi, de brillant, de tout ça.
Mais quelque chose qui, de nos jours, qui peut-être même préalablement, compte énormément et qui fait que certaines personnes sont dans des valeurs qui sont en lien avec ce genre de paraître et cette artificialité, comme on disait, parce que c'est quelque chose qui peut compter énormément pour certaines personnes, parce que c'est la part de rêve aussi pour certains.
Oui, tout à fait.
Donc,
ouais.
Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur. Voilà,
non, tout à fait. Oui, parce qu'en plus, bon, sous la superficialité apparente, il peut aussi se cacher une certaine profondeur. Bon, pas forcément là dans le personnage d'Angela, parce que bon, on ne sait pas, mais d'une manière générale, dans la vie, quelqu'un qui apparaît un peu comme ça, superficiel, peut cacher quelque chose de...
Il reste toujours l'humanité.
Voilà, et déjà.
Oui, tout à fait, oui. Mais dans ce contexte tel qu'il est rapidement décrit...
Vous, personnellement, en tant que l'auteur de la nouvelle, vous avez voulu montrer ce côté...
Le côté décalé, parfois, par rapport au vécu collectif. Parce que là, on est dans une... Les choses sont décrites, c'est un milieu qui est quand même relativement privilégié, donc protégé.
Oui.
Donc, partant de là, les réalités, les valeurs ne sont pas les mêmes et l'impact des choses est effectivement différent. Et ce sont des domaines qui ne sont pas accessibles à tous. C'est-à-dire que ce qui se décrit dans cette histoire-là, c'est quelque chose qui est hors de portée. Donc, ça peut permettre de faire rêver aussi.
Oui. Et puis en plus, bon, le côté mariage, ça doit faire rêver certaines femmes, tout du moins.
Là, on est peut-être dans certaines classes sociales qui sont quand même
aussi
assez privilégiées et donc qu'on voit de loin. C'est pour ça l'artifice, de voir de loin, etc.
C'est pour ça le côté décalé aussi.
Et la projection qu'on peut effectivement aussi faire par rapport à ce genre de situation, parce que ça, ce contexte, enfin, ce genre de choses fait les envieux.
Voilà. Oui, il y a l'envie aussi.
Il y a l'envie, il y a le désir quand on est extérieur à ça, et il y a ce qui se vit quand on y est, et il y a le fait effectivement que tout cela n'est qu'illusoire.
Donc c'est Angela, la troisième nouvelle de ce recueil. Et alors la quatrième, qui est très longue aussi, je crois même qu'elle est plus longue que la première.
Non, c'est possible. Hein,
elle est fort longue. Alors là, j'ai bien aimé. Hein. C'est vraiment, il y a un peu tout. Il y a un peu de comment dire, d'intrigue policière. Il y a beaucoup, bon, là aussi, d'humanité. Hein, et puis aussi, voilà, le côté, vous abordez un peu le thème de les dérives qui peuvent exister dans certains traitements médicaux pour certaines personnes qui sont dites un peu violentes, enfin des personnes un peu à risque.
Des risques de dérive, effectivement, oui, qui peuvent exister, qui sont assez d'actualité. Oui.
Oui, en plus, quand on parle d'hyperactivité pour des enfants et qui sont traités avec des produits qui ne correspondent pas forcément à...
Qui sont systématiquement traités.
Qui sont systématiquement donnés et qui ont des effets secondaires peut-être des fois plus importants que...
Bien que
ce pourquoi ils sont traités.
Quand les choses ne sont pas forcément solutionnées de cette façon-là.
Et donc, justement, ça évoque tous ces thèmes. Alors, ça se passe au début, ça se passe à Londres.
Oui.
C'est un jeune couple, voilà, qui vient en voyage de noces, hein, en fait, à Londres. Donc, c'est Paola et Vasco. Et Paola se trouve tout d'un coup devant la maison de...
George Orwell.
Ouais, ouais. Et là, elle sent que, en fait, elle attend un enfant.
Juste devant cette maison, pas ailleurs.
Elle a une révélation et là, elle sait qu'elle attend un enfant.
Oui.
Voilà.
Alors, mais George Orwell n'y est pour rien.
Non.
Mais c'est devant ce lieu qui est symbolique, effectivement.
Voilà, ouais. Et pour vous aussi, il était symbolique.
Oui.
Voilà, George Orwell a marqué votre...
J'ai eu l'occasion de passer devant cette maison, effectivement.
Et la lecture de...
Voilà, et puis la lecture, bien sûr, de 1984, qui m'avait, à l'époque, énormément marqué avec ces risques, effectivement, de société un petit peu autoritaire, avec la fameuse phrase de Big Brother, is watching you, donc le contrôle sociétal qui peut se mettre en place. C'est vrai que c'était un livre de science-fiction, mais bon, je crois que maintenant on le voit avec un autre regard.
Oui, tout à fait. Oui, des fois la science-fiction rattrape la réalité.
Oui, il y a quelques années près, là, je crois. Hein? Ouais.
Donc voilà, donc Londres, ça vous avez, bon, c'est un lieu qui vous avait marqué aussi. Ouais, enfin ouais. Voilà, vous avez aimé.
J'en ai bien apprécié, oui.
Et après, donc, Paola et Vasco retournent dans leur pays, au Portugal, à Lisbonne. Hein. Et puis là, ils ont deux enfants. Donc, le premier, c'est Jorge, leur petit garçon. Et puis, une petite fille, Janaïna. Mmh. Et puis après, donc, il va y avoir... Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est le tableau idyllique. Voilà,
tout à fait. L'idyllique, effectivement.
Voilà. Et alors, après, ça se gâte. Oui. Parce que, voilà, le petit Jorge a des fois des attitudes qui pourraient paraître, bon, pas très importantes, qui sont mis en exergue par le milieu médical.
Qui sont amplifiées, oui.
Qui sont amplifiées. Ouais. Et donc, il va être amené à prendre des traitements, un traitement moléculaire très lourd.
Oui.
Qui va l'empêcher de vivre, finalement.
Un inhibiteur, en fait, qui va le bloquer et au plan physique et au plan mental, et qui va faire qu'effectivement, la société sera, par rapport aux actes qu'il est censé pouvoir poser, apaisée. Mais ça, c'est un exemple. Je veux dire qu'après, on peut imaginer, effectivement, que ce traitement soit, enfin, est généralisé à d'autres situations qui sont assez similaires.
Et en parallèle, il y a une intrigue policière, parce qu'à Lisbonne sévit le monstre sanguinaire d'un meurtrier en série.
Oui.
Voilà.
Un serial killer. Là,
un serial killer, lisbonnais. Et donc, on se pose la question un peu hein, entre ce serial killer et puis ce garçon.
Oui. Hein. Oui.
Et donc, je ne dévoile pas la fin. On saura à la fin ce qu'il en est.
Oui.
Mais bon, c'est un sujet là aussi grave. Qui est abordé dans cette dernière nouvelle, les dérives, donc les risques de traiter des enfants ou des adultes pour avec des produits qui ne sont pas forcément adaptés à leur
Le fait de se perdre dans des processus qui en fait ne sont pas individualisés et qui font que les réponses de la société seraient trop caricatural parce que en fait on se retrouverait effectivement avec des systèmes de fonctionnement qui seraient normatifs et qui feraient que bon de graves erreurs pourraient être commises en essayant de protéger le collectif, ce qui est une bonne chose aussi de protéger le collectif.
Oui,
mais
tout
là
à fait.
Voilà, donc le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de recul par rapport
à la recherche, enfin aux études qui sont faites
par rapport à la gestion, si on peut dire,
de l'humain.
L'humain doit rester humain et on ne doit pas l'enfermer dans des mécanismes de pensée trop rigides. En se disant, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc on a des solutions.
Oui, de vouloir faire rentrer des gens dans des cases bien précises,
exactement.
Sans déborder, et que chaque personne doit correspondre à un cadre bien
que
précis.
Que ce soit trop normatif.
Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est quatre nouvelles vraiment différentes, mais qui ont toutes ce point commun de grande humanité. Parce que bon, ça parle d'humain, ça parle de vie, de destin, de gens à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Hein. Donc, ces quatre histoires, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, on va dire une histoire par année, parce que vous êtes venu il y a 4 ans, là. Ça fait une histoire, une nouvelle par an. Donc, on espère avoir un autre roman ou d'autres nouvelles dans quelques temps.
J'espère avoir le plaisir, effectivement, de revenir, parce que c'est toujours...
C'est un plaisir d'écrire pour vous, ça vous...
C'est agréable quand, en fait, on clôture l'histoire et c'est un plaisir aussi, effectivement. Oui. Dans le sens où il y a la part d'élaboration et quand les textes sont terminés, bon, on est satisfait.
Bah oui, c'est sûr. Et puis en plus, voilà, c'est un livre qu'on trouve donc dans toutes les librairies, sur commande.
Sur commande, oui.
Voilà.
Oui.
Donc nos auditeurs peuvent aller dans n'importe quelle librairie à Toulouse et demander Ariège en filigrane, Intimité, donc de Serge Saint-Blanca. et puis dévorer les quatre nouvelles qui s'y trouvent.
Je vous remercie, on le trouve aussi dans l'Ariège. Donc,
dans l'Ariège
les
également.
Les librairies ariégeoises.
Là, voilà, dans toutes les librairies en Ariège, ils y sont.
Logiquement, en Ariège, on le trouve.
Il n'y a pas besoin de commander.
Hors commande, oui.
Alors, si vous habitez en Ariège, vous n'avez pas besoin de commander, vous allez dans la librairie et vous demandez le recueil de Serge Saint-Blanca. Et eh bien, merci Serge d'être venu
parler
de
ces
quatre nouvelles qui m'ont beaucoup plu, en tout cas, et qui plairont, j'espère, aux auditeurs. Et puis vous reviendrez donc d'ici quelques temps avec quelque chose.
Merci pour votre invitation, Claire, et j'espère revenir effectivement.
Merci Serge. La semaine prochaine, on reçoit Hervé Ferrage, directeur du Centre régional des lettres, qui nous annoncera le Salon du livre du 15 et 16 novembre prochain à Dissiats.